FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi pour votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Liban, des frappes israéliennes ont fait 6 morts près de la ville de Tyr dans le sud du pays, où Israël poursuit ses raids selon une source médicale. Nouvelle escalade dans le Golfe, l'aéroport international du Koweït a été touché cette nuit par des drones attribués à l'Iran. Une personne a été tuée. Les États-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement cette nuit. Le conseiller militaire du guide suprême iranien met en garde aujourd'hui contre un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelle agression américaine. Au Moyen-Orient d'abord, nous l'avons évoqué dans les titres, au Liban, des frappes israéliennes ont fait 6 morts près de la ville de Tyr dans le sud du pays, où Israël poursuit ses raids selon une source médicale. Des frappes touchent actuellement les environs de Beyrouth. Et c'est une nouvelle escalade dans le Golfe. L'aéroport international du Koweït a été touché cette nuit par des drones attribués à l'Iran. Le trafic aérien a été suspendu et plusieurs personnes ont été blessées. Une attaque qui fragilise un peu plus le cessez-le-feu en vigueur depuis près de 2 mois entre Téhéran et Washington. Le compte-rendu de Nadia Bencher.
L'aéroport international du Koweït a été visé dans la nuit par une attaque de drones attribuée à l'Iran. Selon l'armée koweïtienne, le terminal passager a subi d'importants dégâts matériels et plusieurs personnes ont été blessées. Conséquence immédiate, le trafic aérien a été suspendu et les vols déroutés vers d'autres aéroports de la région. Quelques heures plus tôt, l'armée koweïtienne avait annoncé être en train d'intercepter des drones et des missiles hostiles, tandis que les sirènes d'alerte retentissaient à travers le pays. Dans le même temps, l'Iran affirme avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes visant ses bases et ses alliés dans le Golfe. Selon le commandement militaire américain pour la région, 2 missiles tirés vers le Koweït n'ont pas atteint leur cible, tandis que 3 autres visant Bahreïn ont été interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïnies. Des explosions ont d'ailleurs été entendues dans la nuit dans le royaume où les sirènes d'alerte ont retenti. Les gardiens de la Révolution revendique ces opérations comme des représailles à 2 attaques attribuées aux États-Unis. Téhéran affirme notamment qu'un pétrolier iranien a été touché près du détroit d'Ormuz et qu'une installation de télécommunication a été visée sur l'île iranienne de Keshm. Cette nouvelle flambée de tension intervient alors qu'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis est en vigueur depuis le 8 avril. Un cessez-le-feu qui apparaît aujourd'hui de plus en plus fragile.
Et on l'a appris il y a quelques minutes, une personne a été tuée dans cette attaque au Koweït. Le pays a annoncé la reprise partielle des vols à l'aéroport. On reste au Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran se sont attaqués mutuellement cette nuit, chacun accusant l'autre de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile, même si le contact entre les deux parties n'est pas rompu, selon le président américain Donald Trump. Et le conseiller militaire du guide suprême iranien a mis en garde aujourd'hui contre un déluge de missiles et de drones en cas de nouvelle agression américaine. La guerre se poursuit entre la Russie et l'Ukraine. En Ukraine, une attaque russe contre un bus a fait au moins 21 morts selon Kiev, qui réitère son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne. Et en Russie, une frappe de drone ukrainienne en Crimée annexée par la Russie a fait 7 morts et 11 blessés selon les autorités. Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg ce matin, le jour d'ouverture du forum économique qui rassemble de nombreux dirigeants russes. Hier, l'Union européenne a donné son accord à la création de centres pour le renvoi de migrants à l'étranger. Au Parlement européen, la droite et l'extrême droite saluent la décision de créer ces hubs d'Europe des pays tiers. Un vote définitif aura lieu lors de la prochaine session au Parlement européen. La députée européenne écologiste Mélissa Camara dénonce un recul en termes de droits humains pour les personnes qui seront expulsées dans ces centres. On l'écoute.
Ce que prévoit l'Union européenne, c'est un texte très dur et qui va permettre des reculs fondamentaux sur les droits des personnes exilées. Et en fait, on a eu une proposition de la Commission qui va dans le sens des volontés de l'extrême droite. C'est-à-dire que, comme vous l'avez indiqué, on va avoir des centres de retour à l'extérieur des frontières, un peu comme le modèle de Giorgia Meloni en Albanie. On va avoir des retours forcés qui vont devenir la norme. On va avoir toujours plus de détentions, parfois même dans des prisons, avec des prisonniers de droit commun, de personnes exilées. Et on parle aussi d'enfants qui vont être dans des prisons, qui vont être dans ces centres de retour. On va avoir des rétentions qui vont être plus longues. On va pouvoir aller jusqu'à 30 mois. Enfin voilà, on a tout un arsenal qui va dans le sens de ce que souhaitait l'extrême droite. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le texte qui a été négocié avec le Conseil et la Commission avant-hier est un texte qui a été travaillé par François-Xavier Bellamy avec l'ensemble des groupes d'extrême droite. Il faut savoir que François-Xavier Bellamy a proposé un contre-rapport qu'il a travaillé pendant des mois avec les groupes d'extrême droite. Et donc on voit leurs obsessions concernant les mineurs non accompagnés, on voit leurs obsessions concernant toujours plus de détention, des méthodes qui rappellent celles de l'ICE aux États-Unis. C'est-à-dire que, par exemple, dans le texte final, on va avoir ce qu'on appelle les visites domiciliaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller traquer les gens chez eux, jusqu'à chez eux, on va pouvoir fouiller leurs affaires, un peu comme les images qu'on a pu voir ces derniers mois avec ICE. On a tous été choqués par les images de ces enfants qui étaient arrêtés. On a tous été choqués par cette violence de la politique migratoire de Donald Trump. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui en Europe.
La députée européenne écologiste Mélissa Camara au micro de Loïc Barrière. Dans le reste de l'actualité, la répression des fraudes a infligé deux amendes à Chine pour plus de 22 millions d'euros. Elle pointe des défaillances en matière de traçabilité des produits, de mention environnementale et de délais de rétraction et de livraison. En Tunisie maintenant, plusieurs responsables du parti Ennahda, dont son chef Rached Ranouchi, ont été condamnés hier à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité pour terrorisme. Dans l'actualité en France, le parquet de Bobigny a annoncé avoir saisi l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN ou la police des polices, après un signalement du député insoumis Ali Djouara qui affirme qu'un adolescent de 13 ans a été éborgné samedi soir par un tir de LBD d'un policier à Bobigny après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je vous laisse écouter le député insoumis.
Ce policier était manifestement dans son véhicule de patrouille et de service, a baissé la vitre manifestement de son véhicule et a tiré son LBD en direction de ce jeune homme et en cela a eu pour conséquence d'éclater son globe oculaire. Les premiers éléments et les premiers témoignages que j'ai pu entendre et écouter, je crois que manifestement le tir volontaire ne fait plus aucun doute et ce jeune aujourd'hui a perdu une partie de sa vue, à savoir son œil droit.
Ali Djouara, député insoumis. En éducation, résultat Parcoursup, 2 lycéens sur 3 ont déjà reçu au moins une proposition d'admission sur la plateforme d'inscription post-bac, dont les premières réponses sont tombées hier, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Parcoursup qui est critiqué par l'opposition qui accuse la plateforme de trier les élèves. Le ministre de l'Éducation, Édouard Chefferet, lui, la défend.
Des gens qui effectivement vous disent qu'il faut abolir Parcoursup, qui vous disent texto que l'algorithme de Parcoursup trie les élèves. Juste, il n'y a pas d'algorithme à Parcoursup, et Parcoursup trie rien du tout. Donc faut pas se mentir. Parcoursup, ça fait simplement se rencontrer l'offre et la demande. Vous avez 25 000 formations, vous avez 1 million d'élèves, les élèves font leurs vœux, et chaque formation choisit ses futurs étudiants. Donc Parcoursup ne trie personne. Et donc supprimer Parcoursup, ça veut dire le remplacer le lendemain matin, par un outil qui permet de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent. Personne ne saurait faire autrement. Je ne sais pas pour votre génération, mais, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin, moi, à mon âge, enfin, quand j'étais jeune, je rappelle d'où on vient quand même. Hein. On avait des dossiers papier, mm-hmm. On faisait la queue pendant des heures dans les universités, mm-hmm. Et en réalité, les jeunes s'inscrivaient à ce qu'ils connaissaient, mm-hmm. C'est-à-dire à ce que connaissaient leurs parents. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout jeune de France, il peut connaître toutes les formations, dans le détail, tout, enfin, je veux dire, tout lui est accessible.
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Dans l'enseignement supérieur maintenant, augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers est une mesure de bon sens, estime Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur. Une hausse prévue à partir de la rentrée prochaine. Ils devront débourser environ 3 000 euros. Ce n'est pas une mesure de fermeture, assure le ministre qui veut continuer à attirer ses étudiants. Il était invité ce matin chez nos confrères de France Info.
On demande effectivement à des étudiants internationaux qui viennent de contribuer à hauteur de, en moyenne, je veux dire, c'est entre la licence et le master, 3000 euros pour simplifier. Et ça veut dire que derrière, ben, l'État, les Français, contribuent, eux, pour la formation de l'étudiant, à 7000 euros. Bien sûr, on continue à assumer le fait qu'on contribue à la formation de ces jeunes. Mais par contre, ce qu'on veut aussi, et c'est bien l'objet de ce plan d'attractivité, d'abord, on assume le fait que la France est un grand pays d'enseignement supérieur et qu'on veut attirer les talents internationaux. Et on veut les attirer, pourquoi ? Bah c'est pour le rayonnement de la France, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on en a besoin dans un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, on assume ça, évidemment, on veut continuer à les attirer, donc c'est pas du tout un message de fermeture. Et moi, je pense qu'en fait, ces talents, il faut non seulement les attirer, il faut aussi faire en sorte qu'après, une fois qu'on les a formés, ils restent. Et ça, c'est quand même une vraie difficulté aujourd'hui, parce qu'il y a des difficultés de transition entre les titres de séjour, entre les visas étudiants et les visas salariés. Donc on travaille là-dessus. C'est pas du tout une mesure de fermeture. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a un coût et qu'on demande aux étudiants d'assumer une petite fraction de ce coût. Et à côté de ça, on a des bourses. On a des bourses du gouvernement français pour les meilleurs. Donc ça, c'est aussi très significatif. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais le fait de tenir un message quand j'entends de temps en temps en disant « il faut que tout soit gratuit », etc. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a aujourd'hui, parmi les étudiants internationaux qui viennent aujourd'hui, un nombre significatif de ces étudiants qui sont en situation de très grande pauvreté. Ils arrivent en France. Alors effectivement, les études sont gratuites, mais ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Est-ce que ça, c'est pas aussi une forme un peu d'hypocrisie du système ? Moi, je plaide pour avoir des systèmes qui soient clairs, mais ces étudiants qui sont en situation de très grande précarité, ils ne réussissent pas. Moi, je veux de très bons étudiants qui bénéficieront de bourses du gouvernement français, et puis je veux aussi des étudiants qui veulent venir en France et qui ont les moyens de vivre en France. Je veux dire, enfin, et il me semble que cette mesure-là, c'est une mesure de bon sens aujourd'hui, tout simplement.
Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur. Et enfin, l'hommage au sociologue français Edgar Morin a lieu aujourd'hui aux Invalides. Emmanuel Macron salue, je cite, « un destin exceptionnel du siècle qui ne céda jamais à la vérité d'un seul camp ». C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.